Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique pour la seconde émission consacrée à l'année internationale de la cristallographie. Si vous avez raté la première, ne vous inquiétez pas, elle est bien sûr toujours disponible en podcast sur radiocampusrennes.fr. Pour notre part, nous sommes toujours en compagnie d'Éric Collet, physicien au sein de l'IPR, l'Institut de Physique de Rennes. Dans la première émission, nous avons parlé de la cristallographie de façon plus générale, en retraçant notamment l'historique de cette science. Aujourd'hui, on va un peu plus s'intéresser à ce qui se fait de nos jours dans la recherche et voir que la cristallographie, au final, est utilisée dans de nombreuses sciences. Éric Collet, justement, pouvez-vous nous parler de vos recherches au sein de l'IPR ?
Nous, ce qui nous intéresse, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est la relation entre la structure de la matière et sa fonction.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de la fonction, justement, oui. De la matière.
Alors, si on peut prendre un exemple simple, que j'aime bien prendre quand je fais cours à mes étudiants, c'est le cas du diamant et du graphite. Donc le diamant, c'est une pierre précieuse qui est transparente. Si on mesure sa conductivité électrique, eh bien, on va voir que c'est un système qui est isolant. Et si on regarde sa dureté, on voit que c'est un objet extrêmement dur, puisque on l'utilise pour couper des vitres, par exemple. Si on prend du graphite, le graphite, c'est ce que vous avez dans vos mines de crayon. Ce sont des objets qui sont noirs. Par contre, ils conduisent le courant, mais ils sont extrêmement friables. Lorsque vous frottez un crayon à papier sur une vitre, vous allez enlever le graphite. Et même si vous le frottez sur un papier, vous allez enlever le graphite. Et alors, en fait, ces deux objets-là ont comme point commun d'être tous les deux formés uniquement d'atomes de carbone. Et donc, si on étudie la structure de ces deux objets, on va voir que le graphite est formé d'atomes de carbone, mais que chaque atome de carbone utilise 4 électrons pour former des liaisons avec 4 atomes de carbone qui sont autour de lui. Et donc, on a des liaisons très fortes dans toutes les directions de l'espace. Et donc, c'est pour ça que cet objet est extrêmement dur. Par contre, tous les électrons sont utilisés pour faire des liaisons. Donc un électron va, de façon schématique, se retrouver coincé entre deux atomes. Et donc cet électron ne peut pas bouger. Le système est isolant, puisque ce sont principalement les électrons qui conduisent l'électricité dans les matériaux. Et on ne peut pas exciter facilement ces électrons. Donc si on leur apporte de l'énergie, qui est l'énergie de la lumière visible, cette énergie n'est pas suffisante pour faire bouger ces électrons, et donc les électrons ne l'absorbent pas, et le diamant est transparent. Maintenant, si on prend le cas du graphite, le graphite utilise... chaque atome de carbone qui constitue le graphite utilise 3 électrons pour former des liaisons avec 3 autres atomes, et donc là, on va former des plans, donc les plans de graphène. Il y a eu un prix Nobel récemment pour la découverte du graphène. Et donc, ces plans s'empilent les uns sur les autres, et donc, il reste un électron de libre pour chaque atome de carbone pour faire des liaisons un petit peu faibles entre ces plans. Donc, comme les électrons sont un peu plus libres, le système est conducteur. Ces électrons peuvent absorber facilement de l'énergie pour se déplacer. Et donc, le système est noir, puisque les électrons vont absorber beaucoup de photons. Et par contre, le système est très peu rigide, puisque les plans qui forment les plans qui forment le carbone graphite sont très peu liés entre eux. Donc si on frotte un crayon à papier sur une feuille, en quelque sorte, on enlève des plans d'atomes les uns sur les autres. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort entre la structure intime de la matière et ses propriétés. C'est la même chose pour la couleur des objets, c'est la même chose pour le magnétisme, c'est la même chose pour la ferroélectricité. Il y a beaucoup de propriétés physiques qu'on utilise dans les technologies qui sont liées en fait à la structure intime de la matière à l'échelle atomique. Et c'est pour ça qu'on essaye de l'utiliser. Donc dans vos téléphones portables, vous avez des mémoires qui sont des mémoires magnétiques. On applique un champ électrique et avec ce champ électrique, on va modifier... La conductivité ou la résistivité du matériau, et avec ça, on va pouvoir stocker l'information en termes de 0 et de 1, par exemple. Il y a d'autres objets qui sont des cristaux, qui ont la propriété du piézoélectricité. Piézoélectricité, ça veut dire que si on appuie dessus, il va apparaître une tension aux bornes de ce cristal. Et donc, si on mesure cette tension, on a un signal qui va correspondre à la pression exercée sur l'objet. Plus la pression est forte, plus le signal va être fort. Et donc, ces objets-là sont utilisés, par exemple, dans les sous-marins pour faire des sonars, mais aussi en médecine pour l'échographie. Et on a d'autres objets qui peuvent avoir des propriétés très diverses. Donc, j'ai parlé du cas du graphite et du carbone qui étaient isolants et conducteurs. Il existe des cristaux qui peuvent passer de l'état isolant à l'état conducteur si on change l'environnement, si on change les conditions. Donc, si on change la température ou si on change la pression, si j'appuie dessus ou si je le réchauffe ou je le refroidis, je vais pouvoir passer d'un état à l'autre.
C'est-à-dire qu'on change la structure de la matière et du coup on change ses propriétés.
Voilà, parce que si on change les conditions extérieures, c'est le cas lorsqu'on fait passer l'eau de l'état de glace à l'état liquide, on change les conditions extérieures, on va changer la température, la pression. Eh bien, lorsqu'on change ces conditions extérieures, on peut avoir des objets, effectivement, qui vont passer de magnétique à non-magnétique, d'isolant à conducteur. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser d'autres façons de changer les propriétés de ces objets, non pas en changeant la température ou la pression, ou en appliquant un champ électrique ou un champ magnétique, mais en utilisant la lumière. Donc, il y a des objets qui, lorsqu'on les éclaire par la lumière, vont se transformer. Les molécules ou les protéines qui les composent vont se réorganiser. Et cette réorganisation va donner lieu à une nouvelle propriété physique. Donc on peut par exemple passer d'un état isolant à un état conducteur en éclairant un matériau. Et les objets qu'on étudie réalisent cette opération sur l'échelle de temps de la picoseconde. Donc un millionième de millionième de seconde.
D'où l'utilisation de rayons de laser à rayons X.
Voilà. Ça, c'est une partie des équipements qu'on utilise, mais nous avons aussi au laboratoire des équipements optiques qui permettent d'aller étudier ces changements de propriété de la matière au temps extrêmement court. Vous voyez que quand un objet passe de isolant à conducteur, sa réflectivité va changer, par exemple. Si vous regardez une montre ou un objet métallique, il a la propriété de réfléchir la lumière. Souvent, les objets isolants absorbent la lumière. Donc, en utilisant l'optique, on peut suivre les dynamiques de la matière et les suivre en temps réel. Donc, on a des signaux en optique qui permettent de montrer que lorsqu'on éclaire un objet par la lumière, les atomes ou les molécules se mettent à bouger et on peut suivre ces mouvements en temps réel. Et lorsque l'on étudie ces objets avec les rayons X, on va pouvoir mesurer vraiment comment cette matière se réorganise dans l'espace.
Mais comment la lumière, justement, arrive à changer les propriétés de matériaux ?
Alors, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les sciences de la vie. Donc, si vous me voyez en face de vous, c'est simplement parce que quand la lumière arrive sur votre œil, vous avez une molécule qui est la rhodopsine. Et cette molécule a une certaine structure. Et l'absorption de la lumière va exciter les électrons qui composent cette molécule. Et en fait, c'est une molécule coudée qui va se mettre à tourner dans l'autre sens. Et ceci va générer un signal qui est interprété ensuite par votre œil et qui vous donne le sens de la vision. Mais il y a d'autres objets dans la nature. Par exemple, il y a des protéines photoactives ou luminescences qui absorbent la lumière, se restructurent et puis peuvent aussi réémettre la lumière. Donc, dans les cas qui nous intéressent, des objets qui passent d'un état isolant à métallique, c'est simplement parce que, en plus de la symétrie de translation, il existe d'autres symétries dans la matière. Par exemple, la symétrie d'inversion. Et donc, je peux avoir des molécules qui constituent un matériau qui vont être équivalentes par cette opération de symétrie. Et donc, si un électron a une probabilité d'être sur une molécule avec cette opération de symétrie, il se retrouve à avoir la même probabilité d'être sur une autre molécule. Et donc, si on perd cette symétrie d'inversion, on va autoriser l'électron à avoir une probabilité plus forte d'être sur une molécule que sur une autre. Et donc, l'électron ne saute plus d'une molécule à l'autre et le système devient isolant. Et donc, c'est en changeant la structure de la matière que l'on va permettre à l'objet de passer de l'état isolant à l'état conducteur.
Et vous avez des exemples de matériaux, justement, qui changent de cet état d'isolant à conducteur ?
Oui, alors on en étudie tous les jours au laboratoire. Par contre, là, on est loin de... On est vraiment dans la recherche fondamentale.
Oui, voilà, on n'est pas encore aux applications.
On est très loin des recherches appliquées, où vous aurez ça dans vos ordinateurs ou téléphones portables demain. On collabore avec des collègues japonais, par exemple, qui sont très en avance sur ce domaine. Et il y a tout le champ de l'électronique moléculaire, par exemple, qui est en train de se développer. Donc l'idée, c'est si on a des objets qui sont non plus formés d'atomes, mais formés de molécules, on va pouvoir avoir, en plus de ces propriétés isolants, conducteurs, d'autres propriétés qui peuvent être couplées ou non, et avoir un système qui peut être isolant, conducteur, ou magnétique ou non magnétique. Et donc, si vous avez un système magnétique ou non magnétique, vous pouvez coder l'information en 0 ou 1. Mais si vous avez plusieurs propriétés, vous allez pouvoir coder l'information en 0, 1, 2, 3, etc.
Donc il y a des multiples possibilités d'application dans le futur.
Oui, alors bon, je ne m'avancerai pas jusque-là, mais nous, ce qui nous intéresse au laboratoire, c'est vraiment de comprendre comment la matière s'organise, comment les différents constituants que sont les atomes, les électrons, les molécules interagissent entre eux. Pour donner lieu à une propriété et comment on peut contrôler cette propriété. Mmh. Je suis prêt à parier que les matériaux qu'on étudie au laboratoire ne sont pas ceux qui seront dans les technologies du futur, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre ces processus élémentaires. D'ailleurs, si on arrive à bien les comprendre, peut-être qu'on peut synthétiser un nouvel objet où ces mécanismes vont être exacerbés et où la réponse du matériau sera encore beaucoup plus importante.
Est-ce qu'on pourrait donner une propriété à un matériau qui, de base, ne l'a pas ?
Oui, alors, ça fait partie des choses que l'on étudie aussi. On a des objets qui, de base, ne l'ont pas. Alors, de base, ne l'ont pas, ça veut dire, si je prends un objet et que je regarde comment il est à température ambiante, il a une certaine propriété qui n'est pas celle qui m'intéresse. Alors, des fois, si on change la température ou si on applique un champ électrique ou un champ magnétique, cet objet va avoir la propriété qui nous intéresse. Et nous, on étudie des cas où, si on applique toutes les choses que l'on connaît, eh bien, on n'arrive pas à avoir une nouvelle propriété. Et ce qui est intéressant avec la lumière, c'est qu'on arrive à atteindre des états que l'on n'arrive pas à atteindre avec les techniques habituelles que l'on utilise, changer la température, la pression, le champ électrique ou le champ magnétique. Yeah.
C'était Arcade Fire avec le titre Afterlife. Vous écoutez le Labomatique sur Radio Campus Rennes où nous recevons Eric Collet, physicien à l'Institut de Physique de Rennes, pour parler de l'année internationale de la cristallographie. Avant la pause musicale, vous nous avez parlé de vos recherches qui constituent en gros à contrôler les propriétés physiques des matériaux par la lumière, mais concrètement, comment la lumière peut influencer un objet ?
Donc les électrons qui composent la matière, sont répartis sur les atomes, sur les molécules, sur certains niveaux d'énergie. Lorsque les électrons absorbent de la lumière, ils absorbent de l'énergie et ils vont se retrouver dans un état d'énergie assez haut. Et parfois, ceci peut déstabiliser la structure de la matière. Donc si vous avez un électron sur une liaison entre deux atomes, si vous enlevez cet électron, comme c'est l'électron qui fait la colle entre les deux noyaux, puisque en fait deux noyaux ont une charge positive, et donc en pratique devraient se repousser, et ce sont les électrons qui ont une charge négative en quelque sorte qui se mettent entre les deux, qui vont faire qu'une molécule peut exister. Si on regarde un petit peu les objets que l'on étudie, eh bien, on peut effectivement prendre une molécule qui a deux atomes, l'exciter et la casser. Bon, là, au niveau des propriétés ou des applications, c'est pas très intéressant. Quoique, on peut déclencher des réactions chimiques comme ça grâce à la lumière. Mais au niveau des matériaux, ce qui est intéressant, c'est d'exciter suffisamment ces électrons pour que la molécule qui compose le matériau soit instable et aille se stabiliser vers un nouvel état. Et en fait, le changement de la structure de la molécule va pouvoir piéger ce nouvel état électronique. Donc, on peut avoir des systèmes où le nouvel état formé a un temps de vie extrêmement long. Donc là, effectivement, j'ai des collègues qui pensent à appliquer ces technologies pour le stockage de l'information, par exemple. Mais on peut avoir des systèmes où cet état transitoire a une durée de vie extrêmement courte. Donc, par exemple, dans vos ordinateurs, vous avez des processus qui fonctionnent au gigahertz ou quelques gigahertz. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire environ 1 milliard d'opérations par seconde. Si on arrivait à appliquer directement les phénomènes que l'on étudie, on pourrait effectuer 1000 fois plus d'opérations par seconde. Bon, après, il y a le nombre d'opérations par seconde que l'on peut faire, mais après, il faut ramener au coût de l'objet, parce que si on doit utiliser des lasers au lieu des champs magnétiques, ça coûte beaucoup plus cher. Aussi à la taille, pour pouvoir avoir beaucoup plus de processeurs par unité de surface, par exemple. Et donc, il y a, au-delà de l'aspect recherche fondamentale, qui est l'aspect qui nous intéresse, pour aller vers des choses beaucoup plus appliquées, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Par exemple, certaines molécules que l'on utilise comportent des groupements cyanure qui sont considérés comme étant toxiques, juste mesure dans l'industrie et qui pourrait pas être utilisé simplement parce que si un enfant mettait ces objets-là dans sa bouche, il pourrait y avoir quelques problèmes. Donc voilà, il y a tout un ensemble de contraintes qui fait que la recherche fondamentale n'est pas forcément celle qui trouve des applications. Mais si on reprend le cas du laser, le laser c'était un objet purement scientifique où on avait surtout des phénomènes liés à la physique quantique qui intéressaient les chercheurs et on ne pensait pas qu'il y aurait des applications aussi révolutionnaires que ce qu'on connaît aujourd'hui puisque les lasers, on en trouve absolument partout dans les lecteurs DVD, Blu-ray, etc. par exemple.
Oui, donc peut-être que dans le futur, on ne sait pas encore, mais on retrouvera une partie des fruits de vos recherches.
Je l'espère, oui.
Et justement, vers quoi tend la cristallographie moderne aujourd'hui ? Vers quels axes de recherche ?
Alors, sur la cristallographie moderne, il y a plusieurs axes de recherche. En fait, il y a la cristallographie elle-même et il y a l'application de la cristallographie. Donc, déjà, par exemple, tous les collègues chimistes qui synthétisent des nouvelles molécules, où là, la molécule elle-même a sa propre propriété, il est important de connaître la structure de la molécule. Si on veut ne serait-ce que connaître la relation entre la fonction et la propriété, parce que si on arrive à faire ça, on peut changer un petit peu la molécule pour encore améliorer cette propriété. Donc, il y a tout l'aspect synthèse, développement de nouvelles molécules, mais aussi développement de nouveaux médicaments, par exemple. Ça, c'est des choses extrêmement intéressantes. Il y a tout l'aspect autour des sciences de la vie, donc comprendre comment fonctionne une protéine, par exemple. Comment fonctionne un virus? Est-ce qu'on peut l'arrêter en ciblant une attaque d'un médicament ou d'une molécule sur une zone spécifique, par exemple? Et puis, il y a tout l'aspect matériaux. Il y a des matériaux qui possèdent des propriétés extrêmement diverses, soit des propriétés mécaniques, soit des propriétés optiques, magnétiques, etc. Et donc, la cristallographie s'efforce à comprendre l'origine de ces propriétés. Et puis, il y a aussi des choses un petit peu nouvelles, qui est l'étude de la matière en temps réel. Donc, tout à l'heure, je disais que lorsque l'on excite un matériau par la lumière, la molécule se transforme. Et donc, ces molécules ou ces matériaux se transforment sur l'échelle de temps du millionième de millionième de seconde. Et donc là, avec les expériences qu'on fait actuellement, on arrive à suivre en temps réel le changement de la structure de la matière. Donc, une matière ou un matériau qui passe d'un état A à un état B, cet état B, il a des nouvelles propriétés qui nous intéressent. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre comment on arrive à cet état-là. Et donc, nous, on suit en quelque sorte le chemin qui permet à la matière de se transformer. Et là encore, si on arrive à le comprendre, peut-être qu'on peut le rendre plus efficace.
Et comment vous arrivez à observer ce changement en un laps de temps si court ?
Donc ça, c'est le genre d'expérience qu'on réalise sur les synchrotrons ou sur les X-Files, par exemple. Ou si je prends l'analogie avec ce qui se passe dans une discothèque, quand vous dansez en discothèque et que vous avez des stroboscopes, si ces stroboscopes sont suffisamment courts, vous voyez les mouvements d'un danseur qui sont décomposés. Eh bien, en fait, on utilise exactement le même genre de technique. Par contre, là, on va utiliser des rayons X qui voient la structure de la matière et dont les flashs sont suffisamment courts pour figer, en quelque sorte, le mouvement des atomes. Donc, des atomes se mettent en mouvement sur l'échelle de temps du millionième de seconde, et nous, on va utiliser des flashs de rayons X qui sont 10 ou 100 fois plus courts. D'accord. Et donc, on arrive à décomposer le mouvement d'une molécule actuellement.
Au final, la cristallographie est une discipline très pluridisciplinaire. On la retrouve un peu partout.
Oui, alors si vous allez dans les congrès de cristallographie, par exemple le prochain congrès international a lieu au Canada, à Montréal, au mois d'août, vous allez voir que vous allez retrouver toutes les disciplines, les sciences du vivant, les sciences des matériaux, les sciences de la Terre. D'ailleurs, la première expérience de diffraction des rayons X a été réalisée sur Terre en 1912. Et il y a quelques années, il y a un vaisseau spatial qui a été envoyé sur Mars. Et il y a la sonde Curiosity qui a été envoyée. Et sur ce rover, il y a une expérience de diffraction des rayons X qui a été intégrée. Et la première structure de cristaux qui ne proviennent pas de la planète Terre ont été réalisées sur Mars il y a 2 ans. C'est-à-dire en 2012, exactement 100 ans après la première expérience de diffraction des rayons X. Donc on voit qu'on a beaucoup de choses à apprendre.
Donc en un siècle, on est passé de la cristallographie sur Terre à la cristallographie sur Mars.
Oui. Alors ce qui nous intéresse aussi, c'est la structure des météorites, par exemple. Comprendre les objets qui composent le système solaire, etc.
Et qui sont peut-être à l'origine également de notre...
De la vie.
Notre planète ou de la vie.
Voilà.
Mais c'est peut-être d'ailleurs le fait qu'on la retrouve un peu partout, ça explique peut-être la raison pour laquelle peu de personnes connaissent la cristallographie, puisqu'elle est un peu noyée dans toutes ces disciplines.
Oui, alors dans la cristallographie, il y a un aspect, je dirais, caractérisation. On a synthétisé une molécule ou un nouveau cristal, on veut connaître sa structure, et puis on n'en fait pas grand-chose de plus. Mais il y a tout l'aspect qui est vraiment en relation, fonction... structure, propriété, qui est vraiment en lien avec les axes de recherche actuels dans tous les laboratoires.
Pour revenir à l'année internationale de la cristallographie, je suppose que si la cristallographie est à l'honneur, ce n'est pas uniquement pour rendre hommage aux chercheurs et qu'il y a des actions qui sont menées, comme vous disiez, dans des pays en voie de développement. Et justement, quel genre d'actions sont menées ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des relations qui sont mises en place entre différents laboratoires de recherche ?
Alors, oui, effectivement, un point très important qui avait été aussi souligné par Ban Ki-moon il y a quelques semaines, lorsque nous étions à la cérémonie d'ouverture à l'UNESCO à Paris, c'est que cette année mondiale de la cristallographie, ce n'est pas que la fête des cristallographes. Les actions envers les pays en voie de développement sont très importantes pour donner accès à l'innovation à ces pays. Et donc, il y a deux aspects. Le premier, c'est de former des jeunes chercheurs de ces pays-là à cette science, à cette discipline. Et donc là, il y a des jeunes étudiants qui vont venir réaliser des thèses dans différents pays, y compris en France, qui vont être formés à cette science, qui vont utiliser des équipements modernes, qui vont aussi aller sur les synchrotrons, dans les équipes de recherche, par exemple, et qui vont ensuite retourner dans leur pays pour utiliser ces connaissances, pour les mettre à profit des chercheurs de leur pays. Maintenant, le deuxième aspect, c'est qu'il est important de pouvoir avoir accès aux instruments. Et donc là, une action qui est menée en particulier à l'aide de différents constructeurs d'instruments scientifiques, c'est que ces constructeurs vont remettre en état des équipements qui ne sont plus utilisés aujourd'hui pour les envoyer dans ces pays et pour que les gens puissent faire des propres mesures chez eux. Et donc, bien sûr, dans le cadre de collaboration internationale, si ça ne suffit pas, collaborer avec d'autres pays pour réaliser ces expériences. Donc, comme cette science a un rôle très important au niveau de l'innovation, je disais en science des matériaux, mais aussi en science du vivant, on voit qu'il y a un enjeu très important à mener à bien ce type d'action. Donc, c'est pour ça que cette action est réalisée à la fois sous l'égide de l'UNESCO et sous celle de l'Union internationale de cristallographie.
Le Labomatique touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis le temps de ces deux émissions consacrées à l'année internationale de la cristallographie. Sachez que Rennes célèbre cette année de la cristallographie par des expositions et des conférences. Tout le programme est d'ailleurs disponible sur aicr2014.univ-rennes1.fr. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission du jour en podcast sur radiocampusrennes.fr. Allez, bonne journée à tous, à la prochaine et restez curieux. Love the baby.